Un point ci expliquait comment l'attitude de Jésus à l'égard des femmes et des enfants devrait changer l'Église. Lecture de la Bible, Luc 2, 36-38, Matthieu 27, 55, Marc 15h41, Luc 8, 2-3, 10, 38-39, 24h10, Jean 11h05, 4, 4-26, Matthieu 27, 61, 28, 1, 28, 8, 18, 1, 14 et 19, 13-15, Marc 9, 33-37. L'attitude de Jésus à l'égard des femmes. Il existe de nombreux articles sur Internet qui vous aideront à préparer cette section. L'un d'entre eux s'intitule « Que pouvons-nous apprendre de ce que la Bible dit à propos de Jésus et des femmes ?» Nous vous encourageons à lire l'article dans son intégralité, et d'autres, mais je mentionnerai ici quelques-uns des points clés soulevés par l'auteur, inconnu. Jésus a fait voler en éclats les préjugés et a élevé le statut des femmes à des niveaux sans précédent. Les apôtres ont appris de Jésus la valeur des femmes. Jésus a traité les femmes avec le même amour et le même respect que les hommes. Dieu a d'abord confié à une femme le message le plus important que le monde ait jamais reçu, le Messie tant attendu était en route. Alors que Jésus n'avait que 8 jours, le Saint-Esprit a révélé son identité à une femme, Anne, Luc 2, 36-38. Lorsque Jésus a commencé son ministère terrestre, les femmes affluaient pour l'entendre enseigner, et certaines le soutenaient même financièrement, Matthieu 27, 55, Marc 15h41, Luc 8, 2-3. Jésus était totalement dépourvu de préjugés. Il aimait chaque être humain sans distinction de race, d'ethnie, de profession, d'origine ou de sexe. Il les a traités sur un pied d'égalité et a compté plusieurs femmes parmi ses amies les plus proches, Luc 10, 38-39, 24h10, Jean 11h05. En Samarie, Jésus a parlé à une femme immorale, Jean 4, 4-26. Il l'a transformée et, à travers elle, il a transmis à toute une ville son message d'espoir et de rédemption, versets 39-41. Dans le cas de la femme prise en flagrant délit d'adultère, Jésus a enseigné une leçon importante sur l'égalité aux yeux de Dieu. Nous sommes tous pécheurs, hommes et femmes. Aucun d'entre nous n'a le droit de porter un jugement définitif sur un autre tout en cachant ses propres actions similaires, voir Romains 2, 1, 3. Les femmes ont été les dernières à quitter le lieu de la crucifixion de Jésus et les premières à arriver au tombeau vide, Matthieu 27, 61, 28, 1, ce qui indique que la puissance transformatrice de Jésus a donné aux femmes le courage et l'audace de le suivre ouvertement. Dans une merveilleuse démonstration de la foi des femmes et de l'approbation de Dieu, ces femmes sont devenues les premiers témoins de la résurrection dans le monde, Matthieu 28, 8. Dans toutes ses interactions avec les femmes, Jésus les a traitées avec dignité, compassion et respect. Ce faisant, il s'est opposé aux notions dominantes de l'époque concernant les femmes et leur place dans la société. Dieu ne prétend jamais que les hommes et les femmes sont identiques, mais la vie de Jésus a montré qu'il les appréciait tous deux de la même manière. Les deux sexes apportent une contribution unique à la famille et à l'Église, et tous deux devraient travailler ensemble pour le progrès de tous. L'attitude de Jésus à l'égard des enfants. À quel âge êtes-vous né de nouveau ? Lorsqu'on demande à des groupes de personnes du monde entier « Combien d'entre vous sont nés de nouveau avant l'âge de 18 ans ?», le pourcentage de ceux qui lèvent la main est presque toujours le même, à savoir 80%. Essayez avec votre groupe. Cela signifie donc que l'Église a plus de chances de réussir en prêchant l'Évangile aux enfants et aux adolescents, plutôt qu'aux adultes, où statistiquement très peu de personnes sont nées de nouveau. Je ne dis pas que nous devrions abandonner notre ministère auprès des adultes, pas du tout. Mais ce que je dis, c'est que nous devons réfléchir attentivement avant d'accorder beaucoup plus d'attention à l'évangélisation des enfants. Dans l'histoire de l'Église des 2000 dernières années, l'Église a largement ignoré les enfants. Oui, nous avons nos écoles du dimanche, nos groupes de jeunes et peut-être un discours pour les enfants pendant le service, dans quelques églises, mais si nous sommes honnêtes, la plupart de nos efforts vont vers les adultes. Si vous voulez en avoir la confirmation, il vous suffit de demander quel pourcentage du budget de votre Église est consacré au ministère des enfants. De plus, la plupart de ce que nous faisons avec les enfants est à l'intérieur des murs de l'Église, très peu est consacré à atteindre les enfants non sauvés à l'extérieur de l'Église. Jésus pensait très différemment. Lisez Matthieu 18, 1, 14 et 19, 13-15. Pour bien comprendre ces versets, il faut les replacer dans leur contexte. Dans Matthieu 17h22 et 23, Jésus dit aux disciples qu'il sera tué et qu'il ressuscitera le troisième jour. Pendant qu'il parcourait la Galilée, Jésus leur dit, « Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et le troisième jour il ressuscitera. » Ils furent profondément attristés. Les disciples étaient très affligés parce que Jésus allait être tué, mais 5 versets plus loin, il demande « Qui est le plus grand dans le royaume des cieux ?» En fait, Marc nous donne encore plus d'informations, car dans Marc 9, 33-37 nous lisons. Ils arrivèrent à Capernaüm. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12, et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Au grand étonnement des disciples, Jésus appelle un petit garçon auprès de lui. Dans son excellent livre « Too small to ignore », Wes Stafford décrit merveilleusement cette scène, que j'ai adaptée pour ses notes. Entendez-vous les disciples penser, quel est le rapport entre ce garçon et la réponse à notre importante question? Personne n'avait même pensé à la présence de ce garçon. Pour les disciples, il faisait simplement partie du décor, la foule, invisible, sans importance. Certaines personnes pensent encore que les enfants doivent être « vus et non entendus ». La tragédie, c'est qu'aujourd'hui, non seulement ils ne sont pas entendus, mais ils ne sont pas non plus vus. La Bible nous dit que Jésus a placé l'enfant « au milieu d'eux », Matthieu 18:2. Le fait qu'il se tienne là, au milieu d'eux, avant que Jésus ne le prenne dans ses bras, a dû avoir un effet dramatique. Rappelez-vous que la question était « qui est le plus grand dans le royaume ?» Ils ont dû le regarder comme aucun autre enfant ne l'a jamais fait. Qu'est-ce que Jésus essayait de dire? Enfin, Jésus a pris la parole, en vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme des enfants, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. Le mot « se tourner » est le même que celui utilisé par Pierre le jour de la Pentecôte lorsqu'il a confronté la foule à son rôle dans la crucifixion de Jésus, « Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés », Actes 3:19. Stafford dit que Jésus ne parlait pas aux disciples d'un petit changement, il les appelait à être radicalement transformés, complètement changés, de l'intérieur afin de pouvoir faire partie du royaume, et encore moins d'en être le chef. Il parlait d'humilité de cœur et d'esprit, d'un esprit qui peut être enseigné, d'une volonté d'apprendre. À ce moment-là, les disciples étaient loin d'être là où ils devaient être, un changement radical était nécessaire. Matthieu 18, 4, 5 dit, « C'est pourquoi, quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. » Lorsque Luc raconte l'histoire, il dit « Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. » Luc 9, 48b. Marc va encore plus loin dans Marc 9, 37b, « Et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » En d'autres termes, quiconque reçoit un enfant au nom de Jésus ne reçoit pas seulement Jésus, mais Dieu lui-même. C'est incroyable. Qu'est-ce que cela signifie pour l'Église aujourd'hui? Je suis sûr que les disciples sont restés bouche bée et stupéfaits devant les paroles de Jésus. Nous espérons qu'à partir de ce moment, les disciples ont acquis un nouveau respect et une nouvelle estime pour les enfants, et que leur théologie future placera les enfants au centre du travail de l'Église. Une nouvelle priorité pour les programmes, les budgets et les stratégies auraient dû être établies à ce moment-là. Les paroles de Jésus n'auraient pu être plus claires. Il est étonnant qu'ils aient pu oublier tout cela en l'espace de quelques jours. Comme il est étonnant que l'Église ait pu l'oublier pendant les 2000 ans à venir. Mais Jésus n'avait pas encore terminé. Mais, si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin, et qu'on le jetât au fond de la mer, 18h6. En d'autres termes, toute personne qui pousse des enfants chrétiens à pécher ressentira puissamment la colère de Dieu. Les trois versets suivants sont normalement prêchés en termes de choses qui tentent les croyants, mais lorsque nous les lisons, écoutez le contexte. Malheur au monde à cause des scandales. Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi, mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot, que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, mieux vaut pour toi entrer dans la vie, n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Jésus vient de parler de l'incitation au péché des enfants chrétiens et il n'y a pas de pause lorsqu'il poursuit en disant « Malheur au monde pour les tentations de péché ». Je crois qu'il s'agit des tentations de faire pécher les enfants, d'autant plus qu'au verset 10, il poursuit directement. « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » C'est toujours dans le contexte de l'enfant qu'il a placé au milieu d'eux. Il en va de même pour les quelques versets suivants, souvent appelés la parabole de la brebis perdue, mais toujours dans le contexte des enfants. Nous le voyons à la fin de la parabole, lorsqu'au verset 14 il dit « De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Je me demande ce qui vous est passé par la tête lorsque j'ai parlé de faire pécher les enfants. Les orphelines qui sont des « cibles faciles » pour l'exploitation sexuelle. Les garçons orphelins qui se tournent souvent vers la criminalité et la drogue, et qui sont enclins à devenir violents dans leurs relations avec les adultes. Qu'en est-il des 300 000 enfants, dont beaucoup n'ont pas plus de 10 ans, qui participent actuellement en tant qu'enfants soldats à des conflits armés dans le monde entier? Des kamikazes âgés d'un accent grave peinent 10 ans? Ou peut-être avez-vous pensé aux Dalits en Inde, les « intouchables », où plus de 250 millions de Dalits sont privés de leurs droits humains fondamentaux et de leur dignité? L'Inde compte plus de 40 millions d'enfants travailleurs. Mais ce ne sont pas seulement les enfants pauvres qui sont en danger, tous les enfants sont en danger. Des millions d'enfants sont menacés par la pauvreté, mais des millions sont également menacés par la prospérité. Comme le dit si bien Louise Bush, beaucoup d'enfants et de jeunes ont aujourd'hui tout pour vivre, mais rien pour vivre. Pour en revenir au texte, je suis sûr que les disciples étaient d'accord avec Jésus, ils ne feraient jamais de mal aux enfants. Mais qu'en est-il des péchés d'omission? Les enfants peuvent tout simplement être considérés comme sans importance, de second ordre. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Verset 10. Il semble que les enfants aient des anges représentant au ciel et qu'il ne faille donc pas les mépriser ou les traiter comme s'ils n'étaient pas importants. Je me demande ce que les disciples ont ressenti à la fin de ce discours. D'autant plus que tout cela répondait à leur question, « Qui est le plus grand dans le royaume ?» Comment devrions-nous nous sentir en ce moment? Peu après, des pharisiens sont venus le mettre à l'épreuve, Matthieu 19h03, cette fois sur la question très sérieuse du divorce. Mais dans la foule se trouvaient des mères et leurs enfants, et 19, 13 a dit. Alors on lui amena des petits-enfants, afin qu'il leur imposa les mains et pria pour eux. Les disciples, qui, semble-t-il, avaient la mémoire très courte, étant donné que l'incident avec le petit garçon devait être encore frais dans leur mémoire, sont immédiatement intervenus pour empêcher l'interruption de la discussion des adultes importants. Entendez-vous leurs pensées? Ils recommencent avec les enfants. Ne se rendent-ils pas compte du pouvoir et du prestige des hommes qui l'entourent? C'est un moment de grande influence? Cela vous rappelle-t-il les fois où vous avez entendu des choses telles que « Oh, ce n'est qu'un enfant, il ne comprendra pas » ou « Elle n'est qu'une enfant, c'est une affaire d'adulte » ou encore « Vous ne pouvez pas lui confier cela, il n'a que 8 ans ». Comme nous l'avons vu dans le résultat précédent, Dieu a utilisé plusieurs enfants pour accomplir ses desseins dans la Bible. Imaginez ce que les enfants ont ressenti lorsque les disciples ont essayé de les repousser. Blessés? Rejetés? Déçus? Mais Marc 10h14 dit que Jésus était « indigné ». Matthieu 19h14 dit. Et Jésus dit, « Laissez les petits-enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » En d'autres termes, ne les empêchez pas de venir. Imaginez ce que les enfants ont ressenti à ce moment-là. Ils ont réalisé que cet adulte manifestement responsable les défendait et les protégeait, qu'il grondait les adultes en leur nom. Ils ont dû se précipiter, l'un après l'autre, pour sentir l'étreinte merveilleuse des bras de Jésus. Comment cette histoire devrait-elle affecter l'Église? La vie d'une personne est façonnée entre 4 et 14 ans. C'est au cours de ces années que se forment les habitudes, les valeurs, les croyances et les attitudes de toute une vie. Comme nous l'avons vu précédemment, la plupart des personnes qui naissent de nouveau prennent cette décision alors qu'elles sont encore enfants. Que doit donc faire l'Église? Dans son merveilleux ouvrage « Child, Church and Mission », Dan Brewster suggère ce qui suit. Leur enseigner la parole de Dieu. Faire des enfants des disciples. Les soutenir régulièrement dans la prière. Créer des opportunités pour que les enfants participent au ministère. Offrir des installations ecclésiastiques adaptées aux enfants. Fournir des enseignants qualifiés pour les enfants, des classes et des programmes d'études adaptés à l'âge des enfants. S'engager dans l'équipement et la préparation de la famille. Protéger les enfants des traditions néfastes. Organiser des cultes qui ont un sens pour les enfants. Organiser des réunions d'anciens et des programmes annuels de l'Église, dont l'ordre du jour comprend des questions relatives aux enfants et à la manière d'améliorer le ministère de l'Église auprès des enfants. Formuler des budgets qui prévoient des fonds pour les ministères de l'enfance importants. Il est important de mettre l'accent sur les rituels, Noël, Pâques, autres jours spéciaux de l'Église, anniversaire, remise de diplôme de l'école du dimanche, anniversaire et commémoration, et d'en faire une affaire importante pour les enfants. De même, l'Église devrait prévoir des jours et des heures pour bénir les enfants dans le cadre de son programme annuel. Encourager le pasteur à fréquenter régulièrement le ministère de l'enfance et à connaître de nombreux enfants par leur nom. Insister sur la pureté des dirigeants. Prendre en compte le potentiel des enfants, et pas seulement leur comportement actuel. Soutenir la famille de l'enfant. Organiser régulièrement des activités en famille. Former le personnel à la protection de l'enfance. Cherche à disposer de personnes formées pour aider les enfants qui ont été abusés, maltraités ou qui sont dans la rue. Conclusion. Je suis absolument convaincu que, quelque part dans l'histoire de l'Église, celle-ci a perdu l'importance que Jésus et la Bible accordent aux enfants et que, si l'Église se recentre sur les enfants, sans pour autant abandonner l'importance qu'elle accorde aux adultes, le royaume progressera à un rythme beaucoup plus rapide et l'avenir des enfants du monde sera beaucoup plus rose qu'il ne l'est aujourd'hui.